Penser l'improbable, la biodiversité, l'écologie urbaine et la théorie queer, le tout en adoptant une lecture intersectionnelle, c'est l'ambition du podcast Intersection.
En confrontant la parole d'activistes, d'artistes, de chercheurs, chercheuses, venant de divers champs disciplinaires, l'émission a pour objectif de créer de nouvelles zones de contact, de nouveaux schémas réflexifs, à même de mettre au jour des lectures du réel plus éclatées. À l'heure de l'effondrement, penser la lutte dans sa globalité et renverser les frontières entre les disciplines trouve pleinement son sens.
Alors venez nous découvrir, nous écouter, explorer, tâtonner et porter un nouveau regard sur l'activisme.
Intersection.
Ton prénom, ça peut être cool ton âge quand même. Et ça peut être cool ta... oh, pour te situer en fait.
On d'accord, pour me situer.
Après ton nom de famille, si t'as
ok, très
envie,
bien. Non, non, je sais.
Ok.
Je ne sais pas où je vais, qui je suis.
Bon allez, ok. Mais je sais pas. En fait, il faut le texte, ça me bloque quoi. Ça me bloque.
T'inquiète, tu vas réussir à progresser.
Je vais essayer de pas faire des meufs, mais ça va être hyper compliqué, Adri. Je m'excuse d'avance.
Ah, chaud.
D'accord.
Tout okay. Ça.
Ok, alors. Ah oui, donc, bon, très bien. Allez, vas-y. J'ai une accroche. Vas-y, balance. Donc, pour cette première émission, et donc une émission de présentation, Afé et moi-même, nous voulions poser les contours du podcast Intersection et surtout revenir sur nos parcours respectifs qui sont à la fois dissemblables mais qui trouvent à des points de jonction et des zones de contact. Donc on peut commencer par des présentations globales. Je m'appelle Ariane, j'ai 27 ans et je travaille au laboratoire d'Aubervilliers qui est un centre de résidence artistique. Pour commencer, j'aimerais parler de ma famille, de mon histoire familiale. Donc, ma grand-mère est née au Sénégal. Elle est peul. Mes parents sont nés au Sénégal. J'ai un lien fort justement avec le Sénégal et Dakar parce que j'y suis allée toute mon enfance, en fait, avec la culture sénégalaise. Donc, j'ai eu la chance aussi de voyager. Beaucoup, quand j'étais jeune. J'ai grandi au Pérou et au Brésil. Et ce qui m'a permis de me confronter assez tôt aux inégalités sociales liées aux questions raciales et spatiales. Donc au Pérou et au Brésil, j'ai vécu à Lima pour le Pérou, à São Paulo pour le Brésil, qui sont des très grosses villes. Et ça m'a vraiment permis de me rendre compte à quel point nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisé. Et que l'urbanisation est liée au capital. Le capital administre les flux humains vers différents pôles de compétitivité. Et ces pôles de compétitivité, ce sont les métropoles. On est dans des villes vraiment en réseau, des réseaux transfrontaliers, et ce sont souvent les mêmes personnes qui ont la possibilité de voyager entre ces villes. Comme je le disais plus tôt, je travaille pour un centre d'art, donc le laboratoire d'Aubervilliers. J'ai été très vite sensibilisée à l'art et la culture grâce à mes parents. Ma mère travaille dans les arts visuels, mon beau-père travaille dans les arts vivants, le théâtre. Mais je me suis vite rendu compte que le cadre dans lequel j'évoluais avait certaines limites. En effet, pour moi, la production artistique, aujourd'hui, elle est enfermée dans des boîtes, que ce soit dans les expositions ou même dans des boîtes noires pour les pièces de théâtre. Et j'avais envie de me confronter au dehors, à la rue. C'est pour ça que je me suis intéressée à l'art dans l'espace public. Et même si c'est déjà un espace préconstruit, parce qu'on parle d'un espace administré par l'administration publique, justement, mais ça permet déjà de mettre en tension la production artistique avec une réalité sociale de la rue. Donc le projet de la semeuse, qui est le projet pour lequel je travaille au laboratoire d'Aubervilliers, est un projet qui est vraiment à l'intersection, justement, de différents espaces. La semeuse, c'est un projet de jardin, avant tout. Et il est entre l'espace de la rue et l'espace du centre d'art. Ce qui permet aux habitants, qui n'ont pas l'habitude de rentrer en fait, dans des lieux d'art, comme les laboratoires d'Aubervilliers, de faire un pas dans le jardin. Donc ce jardin, c'est un jardin où on fait principalement du jardinage avec les habitants, mais c'est aussi une plateforme d'échange et de savoir-faire autour des plantes. Voilà, je pense que pour une présentation, c'est assez succinct, mais c'est pas mal. Et toi, Fée, dis-moi comment... Présente-toi un petit peu.
Alors moi, du coup, je m'appelle Afélandra, j'ai 27 ans, je suis aujourd'hui journaliste culturelle freelance. Je suis née, j'ai grandi à Paris, mais mes deux parents viennent du Congo-Brazzaville. Pour la petite histoire, voilà, ça fait un peu pleurer dans les chaumières, mais ça fait sens dans mon parcours. Quand j'ai eu l'âge de 3 ans, mon père est retourné s'installer au Congo, et avec mes sœurs, on ne l'a plus jamais revu. Le contact, il est resté plus que ponctuel, et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ma mère, elle nous a élevés toutes seules, mes deux sœurs et moi, donc trimant au boulot pour joindre les deux bouts, clairement. Et je pense que cet événement a joué un rôle déterminant dans ma construction, dans mes choix professionnels, dans mes engagements et dans ma détermination tout court. Très vite enfant et au début de l'adolescence, je me suis intéressée aux arts. J'ai fait pas mal de danse entre mes 9 et mes 16 ans. J'ai commencé à dessiner à l'âge de 14 ans. Et au lycée, je me suis lancée dans un bac L histoire de l'art. Voilà, un petit peu pour poser le cadre. C'est vrai que sur un plan familial, on n'était pas riches, mais ma mère, elle nous a toujours stimulés, tant intellectuellement que culturellement. Et mes sœurs, elles sont toutes les deux très brillantes, donc c'est vrai qu'aussi j'ai toujours été entourée de femmes extrêmement brillantes et stimulantes. Et notre mère, elle nous a toujours fait comprendre que c'est par l'école qu'on parviendra à s'en sortir. Et c'est une phrase qu'on a toujours gardée en tête avec mes deux sœurs. Donc à la fac, j'ai continué en histoire de l'art jusqu'en master et j'ai croisé cette formation avec un certificat de sociologie. C'est une discipline qui, en plus de me questionner sur le lien social, elle m'a permis de me pencher sur notre perception et notre conception aussi du corps. C'est aussi des études qui m'ont amenée à faire énormément de stages, tant en galerie que dans des labos universitaires. Ce sont des expériences qui m'ont beaucoup appris, mais qui m'ont aussi beaucoup, beaucoup précarisée. Peut-être qu'on pourrait replacer maintenant notre discussion sur le politique. Et peut-être sur notre militantisme, comment toi tu te places justement, Ariane, vis-à-vis de tout ça ?
Dans le cadre du projet de la semeuse, ce sont justement les plantes qui m'intéressent et quel rôle elles jouent en fait dans notre environnement. Mais quand je parle de notre environnement, c'est aussi comment on réagit à ces plantes et qu'est-ce qu'elles nous font. C'est pour ça que je m'intéresse à l'écologie et que je considère l'écologie comme un concept transversal. Donc transversal qui veut dire qui relie les questions politiques, sociales, raciales, spatiales et économiques. Donc l'écologie, pour le définir, c'est l'étude des humains et non humains ainsi que les relations qu'elles engendrent avec leur milieu. Donc pour relier l'écologie, les plantes à la création artistique, pour moi, la création artistique, c'est un médium qui permet la transformation des regards sur nos environnements. Donc quand je parle sur nos environnements, mais aussi de nos usages et de nos pratiques, qu'elles soient intimes comme universelles. Parce que selon moi, c'est ce qui permet de relier l'intime à l'universel. En effet, bah, ouais, les artistes nous permettent de faire un pas de côté, de regarder les choses autrement. Et comme je parlais des espaces publics, qui sont des espaces administrés, des espaces hiérarchisés, les artistes les détournent. Et c'est en cela que je pose mon positionnement politique et militant. J'aimerais parler d'Escola parce que c'est quelqu'un qui m'a permis aussi de réfléchir, de poser un regard politique sur les choses. En fait, d'Escola pense l'écologie comme l'écologie des relations. Donc les relations, pour moi, c'est pas les relations qu'on entend entre humains, mais c'est aussi les relations humaines et non humaines. Donc l'écologie, l'étude, comme je le disais un peu plus tôt, l'étude des humains et non humains et de leur milieu. Donc pour moi, c'est un positionnement politique de fait. Et agir dans un contexte comme Aubervilliers, donc parce que les laboratoires d'Aubervilliers, où les relations sociales s'inscrivent dans une certaine forme de précarité, sont pour moi une ressource et un apprentissage pour le changement radical dans la lutte politique. Et c'est en cela que je me suis construite comme une militante écologiste. Et toi, Afé, est-ce que tu pourrais me parler justement de ton militantisme, ton point de vue ?
Alors moi, du coup, en ce qui concerne un peu mes engagements politiques, il y a deux moments qui ont été déterminants, dans ma trajectoire. Donc, dans un premier temps, il y a eu mon M1 en histoire de l'art, qui était un master spécialisé en photographie. Je me suis penchée en fait sur le travail d'une photographe humaniste, Janine Niepce, qui a documenté l'histoire des femmes françaises, donc à travers son appareil photographique. Ce mémoire du coup de recherche, ce premier mémoire de recherche m'a conduit à interroger les problématiques donc, de genre et de féminisme. Cette année-là, j'ai pu, entre autres, lire les grands noms du féminisme, type Judith Butler, j'ai lu du Beauvoir, j'ai lu du Despentes, je me suis replongée dans Despentes, j'ai lu du Michel Perrault, j'ai lu du Monique Wittig, et j'en passe. Et j'ai commencé à me constituer progressivement un bagage intellectuel militant plus ou moins solide que je continue bien évidemment à alimenter. Après, en M2, j'ai décidé de partir en Erasmus à Madrid. Et ce voyage aussi a joué un rôle majeur dans ma construction politique et militante. Là-bas, j'ai rencontré des féministes intersectionnelles. Je donnerai un peu plus tard la définition d'intersectionnalité. Des féministes hommes, je tiens à le préciser. Et ce sont des garçons qui m'ont fait découvrir, entre autres, la pensée de Fanon, que je ne connaissais pas, celle de Césaire. Et aussi, ce sont des garçons qui m'ont permis de questionner davantage les questions raciales et ce qu'on arrive à nommer aujourd'hui le privilège blanc.
Vous avez le sentiment donc que la négritude est un concept plus radical ?
Plus radical et plus large et plus généreux. Et plus généreux et qui comporte, qui souligne une fidélité et un devoir de mémoire. Combien d'Antillais j'ai connu en France quand je suis arrivé qui avaient honte de se dire Antillais, Martiniquais ou Guadeloupéen. Combien d'entre eux avaient encore honte de l'Afrique et qui se disaient Sud-Américains. Oui, ils étaient prêts à être créoles, mais ils ne revendiquaient pas du tout la qualité africaine.
Aimé Césaire, discours sur la négritude le 26 février 1987. Dans la continuité du discours sur le colonialisme à l'Université internationale de Floride à Miami.
Aujourd'hui, donc, je me place en tant que féministe intersectionnelle et il y a certaines initiatives qui m'ont particulièrement touchée ces dernières années et qui m'ont ouvert les yeux véritablement sur le racisme systémique. Je pense notamment à un collectif comme Décoloniser les arts, qui est portée par l'historienne Françoise Vergès et la dramaturge Gertie Dembury, entre autres. Je pense aussi à un collectif afroféministe comme Moissy, ou encore comme un petit collectif marseillais qui s'appelle la Bahem Prod, qui a un point de vue très, très radical, entre guillemets, parce que voilà, tout dépend ce qu'on entend par radicalité, mais voilà, qui porte un point de vue assez puissant et nécessaire sur ces problématiques-là. Et qui se bat surtout pour visibiliser les minorités de genre sur scène et dans les circuits culturels. Aujourd'hui, je suis journaliste, et j'essaye tant bien que mal de mettre en avant mes engagements et donner le plus possible la parole à celles et ceux à qui on ne la donne pas, en fait, la plupart du temps. Et en parallèle de tout ça, je continue également ma pratique artistique parce que ça fait partie de moi, en travaillant avec beaucoup de femmes qui sont toutes plus inspirantes les unes que les autres. Peut-être qu'on pourrait faire un topo maintenant sur la genèse du projet Intersection. Comment est immergée l'idée? Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, Ariane.
Alors, oui, la genèse du projet, c'était vraiment à la lecture d'un livre. Donc, le livre de Matthew Gandhi, « Écologie queer, nature, sexualité et hétérotopie » aux éditions Hétérotopia France Rhizome. Donc, je précise parce que c'est... maison d'édition excellente, ils font des bouquins géniaux. Parce qu'à la lecture de ce livre, je me suis rendu compte que je faisais des choses, et quand j'ai lu ce livre, j'ai pu mettre des mots. Parce que ce que fait Matthew Gandhi, il applique l'approche queer aux théories socio-spatiales. Je m'intéresse beaucoup à la nature sauvage en ville. Comment est-ce qu'on pense la sauvagerie en ville? Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours cette question de sauvage civilisé. Civilisé, la ville, sauvage, justement, loin de la domestication des villes. Et en fait, ça m'a tout de suite fait un effet très fort, parce que j'avais la sensation de ce que je produisais dans mon jardin était mal vu, parce que c'est un jardin où c'est totalement en bordel. Mais ça permet de créer de la reproduction. Je m'explique. J'ai comme une seule sorte d'arbre arbuste que j'ai dans le jardin, que je taille d'une certaine manière. Cet arbuste, je le taille d'une manière où il y a des endroits où on peut se cacher. Et il se trouve que c'est devenu un réel gangbang de moineaux. Et ça fait maintenant deux ans que je le taille comme ça. Et les moineaux avaient disparu de l'Île-de-France. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'espace de reproduction. Déjà, j'étais très fière quand Nature Parif m'a dit que j'avais des moineaux dans mon jardin. Et ça m'a permis de faire le lien. La lecture de ce bouquin, je me suis dit en effet, alors, comment est-ce qu'on pense la reproduction? Comment est-ce qu'on pense le sexe dans les espaces aujourd'hui, donc dans l'espace public? C'est ça qui m'intéresse aussi. Mais aussi, comment est-ce qu'on pense le sexe et la sexualité dans la nature sauvage? Donc c'est un peu à ce moment-là que j'ai rattaché les wagons. Je peux parler de la jeunesse du projet à cet endroit-là. Et toi, Afé, peux-tu me parler de ton point de vue de comment est née Intersection de ton côté?
Alors du coup, c'est un à côté, mais qui se relie, et d'où l'objet de ce podcast. Hein. Moi, ça fait quelques années que je me rends compte qu'il y a peu de médias en France interrogeant les problématiques intersectionnelles, donc c'est-à-dire interrogeant les oppressions de manière simultanée. Pour la petite histoire, le terme intersectionnalité est né aux États-Unis dans les années 80. C'est la juriste Kimberlé Crenshaw qui l'a érigé, hein, constatant la nécessité de mettre son identité de femme noire de classe moyenne sur un même plan pour faire peser le poids des dominations.
Intersectionality is just a metaphor for understanding the ways that multiple forms of inequality or disadvantage sometimes compound themselves and they create obstacles that often are not understood within conventional ways of thinking about anti-racism or feminism or whatever social justice advocacy structures we have.
Kimberly Crenshaw, What is Intersectionality sur YouTube.
J'avais donc pour projet donc de lancer un média web questionnant ces problématiques, mais c'est vrai que quand tu m'as évoqué tes nouveaux projets, je me suis tout de suite reconnue dans ta démarche et dans ta vision des choses. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de podcasts, de plus en plus, qui interrogent ces problématiques. Je pense à des podcasts du type Kif Taras, donc porté par Grace Lee et Rokhaya Diallo. Je pense aussi à un podcast porté par Anthony Vincent et Douce Dibando qui s'appelle Extimité. Mais l'à côté du podcast Intersection, c'est d'allier à tout ça une réflexion autour de l'écologie. Donc voilà, il y avait vraiment cette idée pour le podcast Intersection d'allier réflexion autour de l'écologie, problématiques queer, questions de genre, de race et lutte de classe. Voilà, on est vraiment sur ce terrain-là. Moi, sur ces questions, le travail de Nelly Kemener pour une diffusion en France des cultural studies et des gender studies m'a vraiment marqué. J'ai eu la chance de l'avoir en directrice de mémoire pendant mon master en journalisme et elle m'a aiguillée sur ma réflexion sur la place des femmes dans le journalisme, et tous les enjeux que cette question soulève aujourd'hui encore et plus que jamais d'ailleurs. Peut-être qu'on pourrait revenir sur les problématiques. Hein.
Les thématiques qu'on va aborder quoi pendant... Ouais. Alors il y a toute une... Bon, bien sûr, elles ne sont pas exhaustives, mais c'est pour donner un peu un panoramique rapide. Donc évidemment, les problématiques socio-spatiales qui nous intéressent, la relation entre racisme, espace et pouvoir, la colonisation et le capitalisme. Donc comment la colonisation a engendré le capitalisme, on peut aussi en parler. La planification urbaine et colonialisme, les luttes queer, et puis la présence dans la ville, la sexualité des humains et des plantes, la relation humain-non-humain, les femmes et les luttes écoféministes, la crise écologique, les luttes des femmes noires dans les banlieues, l'art et le militantisme, le genre urbain. Voilà, on peut dire assez rapidement. Pourquoi Intersection ? Intersection, c'est vraiment l'idée de créer des relations entre différents champs qui sont a priori éloignés. L'envie de parler de sexe et de la sexualité des plantes, mais aussi des animaux, donc quand je dis animaux, humains y compris, évidemment. Et de questionner les modèles scientifiques au travers d'une perspective queer, afin de confronter ces modèles scientifiques au concept de nature, qui veut tout et rien dire.
Pour ce qui est des questions que l'on souhaite aborder, je te rejoins pleinement. L'idée, elle est vraiment de croiser les luttes et les oppressions. Donc, questionner les espaces de lutte par différents prismes, comme la fête, les manifestations, les cercles de parole non mixtes, les rassemblements communautaires en pleine nature aussi. Je pense aux fairies et donc aux fées dont on parlera sans doute. L'art et le militantisme, l'écoféminisme et j'en passe. Ce sont autant de questions qui nous animent toutes les deux et qui seront interrogées tout au long des épisodes d'Intersection. Et derrière Intersection, il y a aussi cette idée de faire converger des regards, des points de vue sur le monde, des luttes pour arriver finalement à de nouvelles zones de contact et de connexion. L'idée, c'est vraiment d'arriver à une réflexion indisciplinaire, pour reprendre la terminologie du photographe français Smith. Donc vraiment cette idée d'éclater les frontières, les limites de la pensée qu'on a un petit peu érigées, les académiciens en général.
Bah, du coup, je pense que pour le podcast zéro, c'est pas mal. On y est arrivé. Et donc pour le podcast 1, nous allons aborder la notion d'espace avec comme invité Gabrielle Fontana.
Oui, on se retrouve très vite alors. Bonne écoute.